Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Par la porte entrouverte du cabinet, peu de secrets s'échappent. Grand ordonnateur du dévoilement, Sigmund Freud n'a pourtant jamais cessé de jouer avec les masques de la pudeur. Exposer son intimité lui reste pénible. Il dénude et travestit, nomme et garde anonyme. Peut-être doit-il toujours rester à l'homme pour vivre quelque chose d'indicible, quelque chose que les mots ne peuvent traduire sans trahir. Quelle est donc la vie secrète de Sigmund Freud ?
Que veut une femme ? C'est la grande question à laquelle moi-même je n'ai jamais pu répondre, malgré toutes mes années d'études.
Started in Vienna not so many years ago, when not enough folks were getting sick. That a starving young physician tried to better his position by discovering what made his patients tick. He forgot about sclerosis and invented the psychosis and 100 ways that sex could be enjoyed. He adopted as his credo, down repression, up libido, and that was the start of Dr. Sigmund Freud. Well, Dr. Freud,
Dr. Freud,
oh, Dr. Freud,
Dr. Freud, how we wish you had been differently employed. But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud.
Well, he analyzed the dreams of the teens and libertines, substituted monologue for pills. He drew crowds just like Wells Sadler, when along came Jungen Adler, and they said, by God, there's gold in them thar ills. They encountered no resistance when they served as Freud's assistants, as with ego and with id they deftly toyed. But instead of toting bedpans, they wore analytic deadpans, those ambitious doctors, Adler, Jung, and Freud. Well, Dr. Freud,
Dr. Freud,
marching in,
comes marching in. How we wish you had been differently employed. But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud.
Bonjour à vous Lydia Flemme.
Bonjour Adèle Vanhoret.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci.
Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce dernier temps de la vie secrète des philosophes. C'était le titre de notre série. On termine avec Freud et avec vous, parce que comme le chante Harry Belafonte, Sigmund Freud, how we wish you had been differently employed, comme nous aurions aimé qu'un autre usage de vous ait pu avoir lieu. Et c'est ce que vous faites dans le livre qui reparaît cette année, La vie quotidienne de Freud et de ses patients, qu'on trouve aux éditions du Seuil. Vous présentez un Freud, alors que peut-être certaines personnes connaissent, mais qui est un Freud dans son quotidien. Vous le dites dès la première phrase, comment n'y avoir pas songé plus tôt ? S'il est un maître du quotidien, c'est bien sûr Sigmund Freud qui choisit la vie quotidienne comme projet scientifique. Ça paraît très simple et tout y est.
Oui, alors c'est à son époque, il faut rappeler quand même que Freud est un homme du 19e siècle. Il est né en 1856 et il pense, comme on pense jusque-là, que la science est réservée aux choses sérieuses. Les astres, ou l'économie, ou la physique, etc. Mais les petites choses de la vie de tous les jours, ça paraît vraiment très transgressif. Et il va nous offrir, au fond, à chacun d'entre nous, de nous dire que notre vie quotidienne, notre intimité, nos rêves la nuit, nos actes manqués le jour, tout ce monde qui nous façonne, nos sensations, nos expériences, nos émotions, eh bien, il va lui offrir une noblesse, la noblesse de concepts nouveaux, et en particulier, bien sûr, de l'inconscient. Mais l'inconscient naît dans le terreau du quotidien et de l'intime, et aussi peut-être du secret.
On a du mal à faire le lien entre le quotidien et l'inconscient, puisque le quotidien, c'est ce qu'on tient pour le familier, ce que l'on connaît très bien, ce qui nous accompagne et ce qui nous rassure, alors que l'inconscient, au contraire, est le plus éloigné possible de notre conscience, donc effrayant, donc inconnu, voire menaçant.
Alors, il y a quand même, on a des liens avec notre inconscient chaque nuit. On a rendez-vous avec notre inconscient, il paraît, 5 fois par nuit, mais parce qu'on rêve. Et au matin, on ne s'en souvient pas très souvent. Alors, quand on s'en souvient, c'est un peu comme une pépite. C'est un peu un trésor qu'on peut retrouver. Parce que si on prête attention à ses rêves, parfois en les notant ou en les racontant autour de soi, à quelques intimes ou éventuellement à son analyste, eh bien, on découvre que le rêve, c'est la quintessence de soi. Ça comprend des souvenirs qui peuvent être liés aux derniers jours, aux dernières impressions avant de s'endormir, mais ça contient souvent aussi des souvenirs du passé, de l'enfance, des émotions oubliées ou parfois même dangereuses. Et donc, le lien, vous connaissez le concept d'inquiétante étrangeté qui se dit en allemand Unheimlichkeit, et Heim c'est comme home en anglais, c'est-à-dire c'est le familier, c'est le connu, et le Un raconte que quelque chose qui a été familier est devenu étrange. Donc la langue allemande travaille beaucoup avec cette proximité du familier et de l'étrange, et donc du conscient et de l'inconscient.
Ce que vous dites, c'est que la vie quotidienne de Freud n'était pas simplement le cadre, le décor dans lequel Freud a travaillé et a mis au point ce qu'on appelle aujourd'hui la psychanalyse, mais a été le terreau de cette analyse, qu'il n'a pas dissocié les deux, qu'il a choisi même de prendre sa vie quotidienne, y compris donc son inconscient, puisque vous nous avez montré que les deux n'étaient pas opposés, comme matière première pour fonder la science, si on peut parler de science, qu'est la psychanalyse.
C'est-à-dire qu'au fond, Freud se met à la recherche de cet inconscient qui toujours échappe, qui, un autre mot synonyme, ce serait le refoulé. Et donc, sa démarche est toujours d'essayer de trouver comment saisir les retours du refoulé. Et bien sûr, le rêve est ce qu'il va appeler la voie royale vers l'inconscient et l'interprétation du rêve en particulier. Donc, c'est le même tissu, au fond. Freud est accompagné toute sa vie par les poètes, les écrivains, les artistes, en particulier Goethe et Shakespeare, parce qu'il a le sentiment qu'il le devance toujours et que lui court derrière. Et Shakespeare a dit que nous étions faits dans la vie de cette même matière qui est le tissu de nos rêves. Donc Freud ne hiérarchise pas, au contraire, il dit que c'est le même tissu qui fait de nous des êtres humains, aussi bien le jour, quand on pense maîtriser les situations, que la nuit, quand les choses au fond nous échappent. Et c'est ça qui est révolutionnaire, et je pense qu'il le reste, c'est ça aussi qui dérange, parce que la société, les règles, les lois, la civilisation nous conduisent à maintenir, à maîtriser nos pulsions. Et Freud, à la fin de sa vie, dans « Malaise dans la civilisation » ou « Malaise dans la culture », selon comment on le traduit, nous dit que chacun de nous paye le prix fort parce que ces pulsions d'amour et de haine ne peuvent pas s'exprimer librement, bien sûr. La vie en société serait impossible. Donc, on doit refouler. Donc, l'inconscient, pour lui, est aussi une nécessité. Mais au départ, dans les années 1885-86, quand il revient de son séjour à Paris chez Charcot, il espère évidemment que l'inconscient va pouvoir se dévoiler pour guérir ses patients et ses patientes. Après, il verra que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait espéré.
Peut-on dire que le but d'une analyse telle que Freud la conçoit est de mettre au jour les secrets qui composent un individu ?
Alors, il faut, pour se représenter la situation, il a travaillé pendant 50 ans. Il devient, si on veut, auto-analyste, si je peux dire ça comme ça. En 1886, il ouvre son cabinet à Vienne, au retour de Paris, et il part à Londres, il quitte Vienne en 1938. Il meurt un an plus tard, et jusqu'à la fin de sa vie, il recevra des patients. Et il lira aussi beaucoup, il écoutera des chansons, puisqu'on a entendu Harry Belafonte, et je pense que ça convient très bien, parce qu'il a eu une grande amitié avec cette chanteuse française, Yvette Guilbert, qui osait dire les secrets des alcôves, et donc il se sent proche d'elle. Et il ne fait, là aussi, il ne fait pas de hiérarchie entre un art qui serait un art savant ou un art populaire, parce qu'il cherche les manifestations de l'inconscient partout, toujours, tous les jours et toutes les nuits, pour essayer de comprendre et de construire aussi cet outil théorique.
Mais alors, est-ce que l'absence ou la révélation des secrets est un des buts de la cure ?
Alors, il le pense au début de son parcours. C'est ça qu'il espère, parce qu'il espère que le secret étant révélé, c'est-à-dire souvent une scène traumatique, la personne va guérir et ce sera terminé. Et malheureusement, très rapidement, il va découvrir que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait espéré, qu'il y a des résistances à la guérison, notamment l'amour de transfert, qui fait que le patient n'a pas envie d'aller mieux. Et puis, au fil de ces 50 ans dont je parlais, il découvre qu'il y a la pulsion de vie, mais il y a aussi la pulsion de mort, que l'être humain est pétri de conflits et de contradictions et de complexités, et que donc le symptôme est souvent un compromis que l'inconscient a trouvé pour s'adapter à la société et survivre. Mais l'inconscience génère sans arrêt de nouvelles énigmes. Donc le secret est toujours reporté à demain. Donc il ne va jamais s'éteindre.
Le terme de secret est très important, y compris dans le processus même de la cure psychanalytique. On entendra tout à l'heure un extrait de La question de l'analyse profane, un texte de Freud qui date de 1926 et qui montre l'importance du secret dans la cure. Mais avant cela, j'aimerais qu'on entende un autre extrait, puisque nous l'avons dit, Freud s'est pris lui-même comme cobaye, a pris son quotidien et ses rêves comme terreau de son analyse. Il écrit « Pour communiquer mes propres rêves, il me fallait me résigner à exposer aux yeux de tous beaucoup plus de ma vie privée qu'il ne me convenait et qu'on ne le demande à un auteur qui n'est point poète mais homme de science. C'était pénible mais indispensable. » Et de cette expérience-là forcée est née aussi certains récits qui sont devenus indispensables à toute forme de travail analytique et connaissance de Freud. Voici donc un extrait de L'inquiétante étrangeté dans lequel Freud croit voir un homme qui lui ressemble beaucoup jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait c'est lui-même.
J'étais assis tout seul dans un compartiment de wagon-lit lorsque, sous l'effet d'un chaos un peu plus rude que les autres, la porte qui menait aux toilettes attenantes s'ouvrit et un monsieur d'un certain âge, en robe de chambre, le bonnet de voyage sur la tête, entra chez moi. Je supposais qu'il s'était trompé de direction en quittant le cabinet qui se trouvait entre deux compartiments et qu'il était entré dans mon compartiment par erreur. Je me levai précipitamment pour le détromper, mais m'aperçus bientôt, abasourdi, que l'intrus était ma propre image renvoyée par le miroir de la porte intermédiaire. Je sais encore que cette apparition m'avait foncièrement déplu. Au lieu donc de m'effrayer de mon double, je ne l'avais, moi, tout simplement pas reconnu. Mais le déplaisir que j'ai trouvé n'était-il pas tout de même un reste de cette réaction archaïque qui ressent le double comme une figure étrangement inquiétante ?
L'inquiétante étrangeté sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de la vie secrète de Freud, aujourd'hui en compagnie de Lydia Flemme. Si le secret est quelque chose de caché, si c'est ce à quoi, une sorte de vérité à laquelle nous n'avons pas accès, alors le premier secret, c'est le moi, Lydia Flemme. C'est ce que nous dit Freud dans ce texte.
C'est-à-dire que on croit se connaître, et bien sûr Freud s'appuie sur toute la philosophie grecque et sa mythologie tellement foisonnante pour essayer de répondre à la question « connais-toi toi-même ». Mais ce qu'il va découvrir, c'est qu'une partie de ce soi-même nous échappe, demeure secret à nous-mêmes. Et donc, dans cet extrait de l'inquiétante étrangeté, c'est dans une note que Freud fait le récit de cette expérience personnelle, et c'est assez amusant évidemment de l'imaginer en robe de chambre et bonnet de nuit dans son compartiment de wagon-lit, partant sans doute pour quelques voyages en Italie. Alors, si on veut raconter des secrets freudiens, le train est au centre de sa vie de multiples manières, aussi parce que c'est la métaphore du train qui va lui permettre d'énoncer la règle fondamentale de la psychanalyse, qui est, généralement on dit, « dites-moi tout ce qui vous passe par la tête, sans faire de tri, même si ça vous paraît quelconque, indifférent, ou au contraire un peu honteux, ou étrange, ou désagréable. » Mais sa formulation précise était « comportez-vous à la manière d'un voyageur qui, assis dans un wagon de chemin de fer, raconterait ce qu'il voit défiler par la fenêtre à un compagnon assis derrière lui. Donc ça, c'est vraiment l'image qui lui vient pour raconter la mise en place, le cadre de la psychanalyse. Et donc, le train est un lieu pour lui très important, pour de multiples raisons. D'abord, il a une phobie d'arriver en retard à la gare. Souvent, il voyage seul parce qu'il ne veut pas encombrer sa famille et ses proches de ses angoisses de chemin de fer. Et il y a un souvenir très, très ancien, sans doute un de ses plus anciens souvenirs d'enfance. C'est, il l'écrit dans une lettre à son ami Flis, d'avoir vu sa mère, en latin, matrem nudam, d'avoir vu sa mère nue. Alors, Freud est né dans un tout petit village de Moravie qui s'appelait Freiberg, donc la montagne libre. Après, il habitera à la Bergas, à la rue de la Montagne. Et il a 3 ans, il quitte définitivement ce village pour monter à Vienne. Et au cours de ce voyage, il aura l'occasion, comme beaucoup d'enfants, mais il s'en souviendra, d'avoir vu sa mère dénudée. Et aussi, il a compris qu'il va quitter le monde heureux de sa petite enfance. Il vient de perdre le second né de la famille, un petit garçon, Julius, dont il se sent très coupable de la mort, sans doute parce qu'il l'a souhaité. Il aurait voulu garder sa maman pour lui tout seul. Et elle se trouve enceinte déjà d'un autre enfant. Donc, ce moment où il voit sa mère nue, et où il espère mettre de côté son père, il s'en sent coupable toute sa vie. Et donc, les trains ont cette connotation de danger, de séparation, de fantasme œdipien. Et c'est donc intéressant de voir comment cette image du train et du voyage sont mêlées à la fois du bonheur du voyage, parce qu'il chaque année il part en Italie ou dans d'autres parties du sud. Il a une adoration bien sûr pour le sud, et les voyages sont des rêves, sont des consolations dans sa vie très réglée, très difficile. Et en même temps, ce train est toujours chargé d'angoisse. Donc, comme souvent chez Freud, on voit comment tout se mêle de l'amour et de la haine, du bonheur et de la difficulté. Et donc, cette image du double qui surgit soudain dans le compartiment de chemin de fer, qu'il ne reconnaît pas tout de suite comme lui-même, est une image qu'il donne pour exemple de cette inquiétante étrangeté, donc de cette situation où ce qui était familier devient inquiétant comme un fantôme, en fait.
C'est ça, j'ai commencé l'émission en disant, en opposant facticement l'inconscient d'un côté qui est l'inconnu sauvage et menaçant et le quotidien rassurant. Quelques lignes de Freud suffisent à nous convaincre de Freud, et pas seulement, d'autres auteurs aussi le montrent très bien, que rien n'est moins connu que le quotidien, et rien n'est peut-être aussi menaçant que le quotidien que l'on croit connaître et qui en fait est toujours inaccessible et toujours composé de choses qui nous échappe. Ce que raconte Freud ici, c'est que cette inquiétante étrangeté, elle est inhérente non seulement à la notion du moi, mais également à notre vie la plus domestique. D'où l'intérêt du récit que vous faites dans votre livre, Lydia Flemme, de ce qui compose les journées de Freud, que ce soit les promenades, les goûts, les passions, les phobies que vous venez de citer, parce que ce sont autant de choses avec lesquelles Freud entretient un rapport ambivalent, comme nous-mêmes à notre quotidien.
Absolument. Alors, il faut rappeler que Freud a écrit autour de 20 000 lettres dans sa vie, dont environ la moitié nous sont sans doute accessibles. Et c'est comme s'il pensait le stylo à la main. Depuis ses 16 ans jusqu'à la fin de sa vie, il écrit jusqu'à 8, 9, 10 lettres par jour à divers correspondants. Et il se raconte. Donc on voit le dispositif aussi de la lettre est quand même un lieu d'auto-analyse. C'est une expérience que chacun de nous peut faire. Souvent, quand on écrit une lettre ou même un mail, parfois au milieu de la nuit, on se laisse aller à certaines confidences. On se laisse à dire des choses qu'au fond, on ne savait peut-être pas soi-même. Et donc, nous avons un terreau magnifique, des coulisses extraordinaires où l'on peut voir comment se construit au fil du temps cette auto-analyse, mais aussi ces concepts théoriques et ces livres. Et donc, il est secret dans la mesure où il est pudique, et ça lui coûte de publier des rêves personnels, parce qu'il est obligé de faire des associations. Et ce qu'il nous montre, et qui est passionnant, c'est qu'un rêve, en général, dans une analyse, on le raconte. Mmh. Mais lui, comme il est dans une démarche auto-analytique, il l'écrit. Alors, il commence par écrire le rêve et puis par écrire les associations au rêve. Et ça prend des pages et des pages et des pages. Et une partie du matériau de l'interprétation des rêves, la Traumdeutung, son livre majeur qui paraît en 1900, est composé pour une grande part de l'auto-analyse de ses rêves. Et donc là, on a un matériau évidemment fascinant, parce qu'on pourrait dire que Freud nous tend le miroir de son intimité pour nous révéler notre intimité. Un peu comme dans la science, on a ces grands scientifiques qui s'inoculent à eux-mêmes des vaccins ou des préparations qui vont donner naissance à des inventions ou des nouveautés scientifiques.
Écoutons Freud faire état de la place du secret dans la cure psychanalytique à partir de ce qu'il appelle ses intimités. Écoutez, c'est le comédien Yvan Morane qui lit le texte.
Chaque homme sait qu'il y a en lui des choses telles qu'il ne les communiquerait aux autres que très à contre-cœur, ou dont il tient la communication pour tout à fait exclue. Ce sont ses intimités. Il pressent aussi, ce qui représente un grand progrès dans la connaissance psychologique de soi, qu'il existe d'autres choses qu'on ne voudrait pas s'avouer à soi-même, que l'on se cache volontiers à soi-même, auxquelles, de ce fait, on coupe court, et que l'on chasse de sa pensée lorsqu'elles y émergent quand même. Peut-être même observe-t-il lui-même l'amorce d'un problème psychologique remarquable dans cette situation où notre propre pensée doit être tenue secrète à notre propre soi. C'est vraiment comme si son soi n'était plus l'unité pour laquelle il le tient toujours. Comme s'il y avait en lui encore quelque chose d'autre pouvant s'opposer à ce soi. En lui peut bien se faire jour vaguement quelque chose comme une opposition entre le soi et une vie de l'âme au sens le plus large. Si, dès lors, il accepte l'exigence de l'analyse, qui est de tout dire, il accédera aisément à l'espoir qu'un commerce et un échange d'idées partant de postulats si inhabituels puissent également conduire à de singuliers effets. Je comprends, dit notre interlocuteur impartial. Vous supposez que tout nerveux a quelque chose qui l'oppresse, un secret, et en le mettant en situation de l'exprimer, vous le déchargez de cette oppression et vous lui faites du bien.
Et on va encore mieux comprendre ce texte grâce à vous, Lydia Flem, après avoir entendu une illustration. On illustre, après on explique. Voici un extrait des Passions secrètes de John Huston dans lequel Freud explique à sa patiente les résultats de son analyse.
Comme tous les enfants, vous aviez besoin des caresses de votre mère, de la chaleur de son corps. Ça vous a été refusé. Vous vous êtes tourné vers votre père qui vous caressait. Vous en êtes arrivé à dépendre de ses caresses. Alors votre mère s'est interposée, vous avez souhaité sa mort. Désir pour votre père, désir de mort pour votre mère. Vous avez appris avec le temps que ce double désir n'était pas permis. Il fallait le refouler. Tout ce qui vous est arrivé, tous vos malheurs n'ont fait qu'attiser les flammes. Cécilie, vous n'êtes pas fautive. Ou si vous l'êtes, votre faute est partagée par tous les êtres humains. L'innocent débarque dans un monde où, fatalement, il est destiné à perdre son innocence. J'ai rêvé ardemment de tuer mon père.
Alors vous étiez un monstre aussi?
Non, j'étais un enfant.
J'accepte toutes ces choses que vous me dites. Mais vous m'avez dit aussi que lorsque je connaîtrai la cause de ma maladie, je serai guérie. Et je veux toujours mourir. Et maintenant que je suis guérie, vous ne me verrez plus jamais.
Je vous reverrai. Parce que vous n'êtes pas guérie.
Mais mes symptômes ont disparu.
Oui, tous sauf un.
Lequel?
Votre amour pour moi.
Alors, vous acceptez cet amour?
Jusqu'à ce qu'il disparaisse pour faire place à un autre amour. Un amour que vous aurez choisi. Venez demain à mon cabinet. Demain à 5 heures.
On aimerait que les choses soient aussi simples, Lydia Flemme, qu'en 1 minute 38, l'analyse puisse donner au patient toutes les clés dont il ou elle a besoin pour s'auto-analyser et que finalement, bien, celui-ci détienne toutes les clés du secret du patient. Vous connaissez ce film de Jane Austen, Freud, Patient Secrète?
Oui, avant de venir ici, je l'ai revu et je le conseille. C'est un film magnifique, un film de 1962, dont on sait sans doute peu que Jane Austen avait demandé à Sartre de faire le scénario.
En effet, on sait que c'est Montgomery Clift qui joue le rôle de Freud, mais je ne savais pas que Sartre était le scénariste de ce film.
Alors Sartre s'est prêté à la demande de Jane Austen, mais en rajoutant toujours plus, donc ce scénario est devenu gigantesque. Et finalement, ce sont des gens d'Hollywood qui ont un petit peu recadré les choses, et Sartre a demandé que son nom ne figure pas dans le générique. Mais J.B. Pontalis a publié en 1984 dans sa collection le scénario de Sartre pour ce film. Et c'est tout à fait passionnant à lire. Le film n'a pas eu tellement de succès, mais c'est un film magnifique avec des séquences oniriques extraordinaires, des séquences de rêve de ses patients, mais de lui-même aussi. Et donc c'est très très beau. Alors bien sûr, c'est raconté d'une façon assez romantique, comme si en effet, au moment où on a mis le doigt sur le secret, qui est souvent un secret de famille d'ailleurs, tout va se résoudre. Et
c'est pas si simple, c'est ça que vous nous dites.
Et là,
parce que c'est très agréable à entendre. On se dit, une résolution, ça y est, les jours vont être plus heureux pour elle. Et en fait, c'est pas si simple.
C'est pas si simple. Et Freud lui-même s'en aperçoit. Et à la fin de sa vie, il dira, la plasticité de la libido n'est pas la même chez chacun. Et certaines personnes ont peut-être, sont douées peut-être pour aller mieux, alors que d'autres résistent et tiennent à leurs symptômes.
Mais quel est le rapport avec la libido?
La libido ou l'inconscient, enfin, c'est un autre mot pour dire les pulsions. Mais Freud est très gêné par les résistances qu'il rencontre. Et une des résistances, comme il le raconte là dans l'extrait, c'est l'amour de transfert. Parce qu'à partir du moment où on a capté l'attention de son psy et qu'on lui prête une relation évidemment amoureuse, que ce soit un homme ou une femme selon les cas, ben, on n'a pas envie de le perdre et de s'en séparer. Donc surtout ne pas guérir.
Et c'est arrivé à Freud de tomber amoureux de ses patientes?
Alors, il avait un maître qui était Joseph Breuer, un maître, un ami, un soutien, qui a vécu cette situation au point que cette patiente s'est dite, a mimé une scène d'accouchement et donc se croyait enceinte de Joseph Breuer. Donc, Freud était assez tôt dans sa carrière mis en garde par l'expérience de cet aîné et a essayé de garder des distances parce qu'il voyait bien qu'il y avait un risque, que c'était un des risques du métier. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il propose à ses patients avec qui il faisait de l'hypnose au départ, comme Breuer lui-même, il propose de garder la situation allongée sur un divan, mais il ne se met pas en face du patient ou de la patiente, mais derrière. Aussi pour
se protéger, en réalité.
Aussi pour se protéger. C'est le moment, la psychanalyse naît au moment où on trouve les rayons X, et il a cette comparaison en disant que c'est un métier dangereux comme quelqu'un, comme un scientifique qui manipule les rayons X. Donc il sait que on ne va pas impunément réveiller les démons et les secrets, ni les siens, ni ceux des autres.
Il avoue à une de ses patientes qui le retranscrit ensuite, il s'agit d'Hilda Doolittle, il dit « Il faut que je vous dise, puisque vous avez été franche avec moi, je le serai avec vous, je n'aime pas être la mère dans un transfert. Ça me surprend, me choque toujours un peu, je me sens tellement masculin. » C'est vous qui le citez dans votre livre. C'est intéressant de voir que le rôle de Freud et de tout analyste est d'être le réceptacle du désir du patient, père ou mère selon les cas, et que lui-même, forcément, c'est un être humain, avait soit ses préférences, en tout cas des choses qu'il rejetait, il n'aimait pas être la mère dans le cas du transfert.
Alors on peut trouver aussi la phrase inverse, comme souvent chez Freud, donc ça c'est Hilda Doolittle, il la voit, il a 70 ans ou pas loin, à ce moment-là c'est une grande poétesse qui le fascine aussi parce qu'elle est allée sur des lieux de fouilles et donc il y a une relation tout de suite assez intense entre eux, et puis il a beaucoup d'admiration pour les écrivains et elle en est une, mais en effet il lui dit ça. Et à d'autres moments, au contraire, il reconnaît en lui du féminin. Et je pense qu'il y a une tension entre les deux, puisqu'il a quand même le concept de la bisexualité psychique. Il pense que chaque enfant ayant un père et une mère a l'occasion de s'identifier à du féminin et à du masculin. Et je crois que par les temps qui courent, ce serait bien que chaque être humain reconnaisse cette double part en soi, même si la vie, bien sûr, nous conduit à opter pour un genre plutôt qu'un autre, il n'empêche que dans l'inconscient, nous sommes nourris par deux fleuves, celui qui vient de notre père, celui qui vient de notre mère.
On peut avoir du féminin chez un homme et du masculin chez une femme.
Exactement. Et je pense que ça en fait aussi le charme. Et donc, Freud, à certains moments, se reconnaît comme ayant du féminin en lui, et à d'autres, au contraire, il devient un peu plus carré, comme dans cette phrase que vous avez citée.
Oui, parce qu'il dit à plusieurs reprises que finalement, le type de relation qui le satisfait le plus, c'est peut-être celui de l'amitié avec des hommes. Alors, sans aller forcément jusqu'à la bisexualité, on sent ce besoin de complicité, notamment avec Fliss, le médecin avec lequel il a beaucoup correspondu, où la question se pose quand même de savoir quel type de désir l'unit à cet homme.
Oui, alors, bien sûr, on peut toujours supposer qu'il y a une part d'homosexualité inconsciente. Ils jouent avec cette idée dans leurs lettres, au point qu'ils s'annoncent mutuellement que leur épouse est enceinte exactement au même moment. Alors, ça précède la naissance de Anna Freud, qui deviendra psychanalyste, comme on sait. Mais Freud écrit à son ami que si c'est un garçon, il s'appellerait Willem comme lui. Donc on voit bien qu'il a une relation très intense. Il a une relation tellement intense dans ses amitiés masculines qu'en général, ça se termine mal parce qu'il y a trop de passion, donc il y a rupture. Alors que dans ses amitiés féminines, comme avec Lou Andrea Salomé ou Marie Bonaparte, il y a beaucoup d'admiration, beaucoup d'amitié, au sens où on dirait qu'il est plus capable de sublimation et donc de distance avec des femmes qu'avec des hommes.
Et quand il parle de sa vie sexuelle, il dit « Je suis partisan d'une vie sexuelle beaucoup plus libre, même si je n'ai pour ma part que fort peu usé d'une telle liberté. Je n'en ai profité que dans la mesure où j'étais convaincu de ce qui m'était permis en ce domaine. » Il a été marié avec la même femme pendant de nombreuses années. Et si on l'en croit, le simple fait de savoir qu'il lui était possible d'explorer une vie sexuelle plus riche, lui suffisait.
Oui, il semble qu'il est... Bon, c'est quand même un homme dont l'œuvre est gigantesque et qu'il remet dans ses concepts théoriques en question toutes les quelques années. Il a été productif pendant 50 ans, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mmh. Il y a des remaniements sans arrêt de ces théories, des raffinements, des changements de position, etc. Donc la sublimation est une chose qu'il connaît extrêmement bien. Mais il y a un texte assez émouvant, je trouve. Il a beaucoup souffert pour son épouse, qu'elle soit accablée par les grossesses. Elle a eu 6 grossesses en très peu de temps. Et il a écrit, au fond, ce qui nous manque, pour le dire sans le paraphraser, c'est une contraception efficace. Donc très tôt, il y a plus d'un siècle, il a conscience que pour une vie sexuelle libre pour les hommes et les femmes, il faut se préserver de la fatalité de l'enfantement. Et je trouve que c'est assez réjouissant de lire cela, alors que c'est une chose qui est assez peu connue.
On lui prête aussi une histoire peut-être avec sa belle-sœur,
la sœur
de Martin.
Oui, il y a une correspondance qui vient de paraître sur les lettres à Mina. Alors ça, c'est un petit peu autour du...
Là, on est en plein secret, pour le coup.
En plein secret, c'est le Freud bashing. les lettres montrent qu'il y a des liens comme entre un frère et une sœur. On peut toujours, bien sûr, fantasmer tout ce qu'on veut sur la chambre conjugale ou au contraire, les liens, là on pourrait dire quasiment incestueux, puisque c'est une sœur, mais nous n'en avons aucune preuve.
Laissons les secrets où ils sont.
Voilà.
Un dernier mot sur le texte qu'on a entendu, finalement nous l'avons peu commenté, donc il était extrait de la question de l'analyse profane. C'est vous qui l'aviez suggéré, Lydia Flemme, et c'est un texte magnifique de précision. Donc il qualifie les secrets d'intimité, hein. Il dit il y a des choses qu'on sait qu'on ne communiquera aux autres qu'à contre-cœur, ce sont ces intimités, dit-il entre guillemets, et il laisse penser que l'analyste serait celui... le dépositaire des secrets du patient. Quel est vraiment le rôle de l'analyste par rapport aux secrets du patient? Sait-il tout? En sait-il davantage que le patient lui-même pour pouvoir le guider dans sa cure? Ou bien se doit-il aussi de préserver certains secrets qui ne sont pas incompatibles avec l'avancée de la cure?
Alors c'est une question compliquée. Pour rappeler l'historicité, Freud part à la quête, à la chasse au trésor de l'inconscient au moment où un confrère, Conan Doyle, qui était médecin, écrit tous ses romans policiers avec Sherlock Holmes. Et Freud est un peu un Sherlock Holmes. Il est à la recherche d'indices, de traces et donc de secrets, si on veut, pour essayer de remonter toujours, en tout cas dans les premières années, il espère remonter au traumatisme originel, au secret qui, ayant été touché, se dissoudrait et résolverait tout. Et comme on disait tout à l'heure, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Et donc, la question est-ce que l'analyse précède ou non le patient? Alors, dans certains cas, on peut dire que l'analyste peut faire des hypothèses, comme Sherlock Holmes l'effraie en disant « Tiens, il y a de la terre sur la chaussure gauche plutôt que la chaussure droite, on dirait une terre de telle région d'Angleterre, etc. » Donc, il essaye de construire une hypothèse, mais ensuite, la question est de savoir à quel moment transmettre au patient cette hypothèse. Est-ce que le moment est favorable pour que le patient puisse l'entendre et en faire quelque chose de bon pour lui? Donc au début, comme dans le film de John Huston, il pense que c'est immédiat, que c'est un dialogue où l'inconscient est à ciel ouvert et que tout ça va s'arranger de soi-même. Après, il va devenir beaucoup plus prudent et comprendre qu'on ne peut pas jeter à la figure de quelqu'un ses secrets, que ça ne changerait et que même au contraire, ça l'effraie et que la personne a plutôt envie de s'enfuir que de rester avec un analyste qui serait presque un persécuteur, ce qui n'est quand même pas le but de l'analyse. L'analyse, c'est d'essayer de mesurer ce qui est de l'ordre de l'audible, ce dont on peut prendre conscience et ce qui n'est pas encore proche du conscient et même du préconscient et qu'il faut laisser dans l'ombre pour un certain temps.
Parce que nous ne sommes pas prêts à nous entendre révéler des secrets qui nous appartiennent?
Parce que ce sont des secrets pour nous-mêmes. Ce ne sont pas, là, on ne parle pas de secrets, comme on dirait, des secrets de Polichinelle ou des secrets de famille. C'est-à-dire que là, on en est conscient. Hein. C'est pas du mensonge. C'est quelque chose qui appartient à nos propres coulisses et dont nous ne savons rien. Pourquoi? Parce que nous avons formé, sans le savoir, une protection qui nous a été utile un jour pour grandir, pour vivre, pour survivre, et que si on détruit cet agencement très délicat, on risque ou de perdre la raison, ou d'être profondément déstabilisé, et ce n'est en aucun cas le but d'une analyse. Donc le secret, si c'est de l'ordre d'un synonyme d'inconscient, n'est pas quelque chose qui doit juste se révéler. C'est une matière vivante qui appartient à notre psychisme et qui ne peut nous être viable que si tout notre psychisme se met à bouger et au fond si on accepte de faire un pas de côté et de regarder notre histoire d'une autre manière que celle qu'on avait adoptée jusque-là. C'est notre histoire et nous devons vivre en bonne intelligence avec notre inconscient. Sinon, ça ne fonctionne pas, quel que soit le désir de l'analyste de dévoiler les choses cachées.
Oui, le rôle de celui qui analyse est presque secondaire dans le processus que vous décrivez. C'est le patient allongé qui parle le langage, fait connaissance avec son inconscient bien pour sûr. Pouvoir un jour être à même de se révéler à lui-même ses secrets.
Absolument. L'analyste, finalement, n'a qu'un, c'est un peu comme une sage-femme. C'est une image que Freud utilisera. C'est le bébé va naître de la mère de toute façon. La sage-femme peut faciliter l'accouchement, mais elle n'est ni le père, ni la mère de l'enfant, ni même l'enfant. Donc c'est la même chose. L'inconscient, c'est ce qui nous constitue et qui continue à vivre en nous jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire que la société nous a obligés à refouler certaines choses, heureusement, parce que vous imaginez un monde où on vivrait ensemble et où on laisserait libre cours à nos pulsions meurtrières et érotiques sans arrêt, ce serait absolument inviable. Donc, il faut qu'il y ait des coulisses à la vie sociale. Mais bien sûr, certaines personnes vivent avec ces pulsions intérieures et les transforment. On est heureux de trouver un médecin, un chirurgien, même s'il a refoulé une part de sadisme pour nous opérer. Donc, c'est un processus complexe et le but n'est bien sûr pas que cette partie-là de nous soit transparente. La transparence, j'allais dire du fascisme. Enfin, c'est une chose très, très dangereuse en réalité. Il faut trouver quelque chose de bien tempéré.
Ça, c'est le plus difficile, de savoir à quel moment nous avons atteint ce secret, si on part du principe que l'analyse a pour but de pointer ces secrets. Ces secrets-là, c'est-à-dire ce qui est source de souffrance, qui nous fait agir de manière répétitive et reproduire des schémas dont nous n'arrivons pas à nous libérer, ce qui souvent peut conduire à l'analyse, dans le cas où on décide d'y aller. Voilà, arriver à identifier cette source première. Est-ce que, encore pour reprendre l'exemple du film de Houston, on peut pas toujours mettre des mots sur ce qui se passe, ou est-ce que quand même une analyse réussie est un secret bien nommé, bien dévoilé, qui peut rester secret pour les autres, mais qui ne l'est plus du tout pour soi, ou quelqu'un pourrait quasiment parler de transparence à l'égard de soi?
Oui, je crois que ça correspond au rêve du début de l'analyse, mais ça ne correspond plus du tout à ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Je ne pense pas qu'une analyse réussie soit une analyse où les secrets soit dévoilé. Je crois que c'est une autre manière de raconter notre propre histoire. C'est un autre récit qui nous permet d'accepter aussi les parts d'ombre en nous. Il n'y a pas que des choses heureuses ou dont on est fier. Il y a aussi beaucoup d'autres parties de nous-mêmes qui nous effraient, qui nous inquiètent et avec lesquelles on essaye d'apprendre à vivre en meilleure intelligence.
Vous avez effectué la comparaison entre l'analyse et le roman policier. Freud propose une autre comparaison qui est celle entre le travail du psychanalyste et le travail de l'archéologue. Écoutez ce texte.
Il faut considérer que l'archéologue a affaire à des objets détruits dont des parties volumineuses et importantes ont sans aucun doute été perdues par l'effet de la violence mécanique, du feu ou du pillage. Aucun effort ne réussira à les retrouver pour les assembler avec les restes conservés. On en est réduit à la seule reconstruction qui, de ce fait, ne saurait bien souvent dépasser un certain degré de vraisemblance. Il en va tout autrement de l'objet psychique, dont l'analyste veut recueillir la préhistoire. Ici, il se passe régulièrement ce qui, dans le cas de l'objet archéologique, ne s'est produit que dans des circonstances exceptionnellement favorables, comme à Pompéi ou pour le tombeau de Toutankhamon. L'essentiel est entièrement conservé. Même ce qui paraît complètement oublié subsiste encore de quelque façon et en quelque lieu, mais enseveli, inaccessible à l'individu. Comme on le sait, il est douteux qu'une formation psychique quelconque puisse vraiment subir une destruction totale. C'est une simple question de technique analytique que de déterminer si on réussira à faire apparaître entièrement ce qui a été caché. Il n'y a que deux faits qui s'opposent à cet extraordinaire privilège du travail analytique. L'objet psychique est incomparablement plus compliqué que l'objet matériel de l'archéologue, et notre connaissance n'est pas assez préparée à ce que nous devons trouver parce que la structure intime de son objet recèle encore beaucoup de mystères. Et voici que notre comparaison entre les deux méthodes de travail arrive à son terme, car la différence principale entre elles consiste en ce que, pour l'archéologue, la reconstruction est le but et la fin de son effort, tandis que pour l'analyste, la construction n'est qu'un travail préliminaire.
Devenez archéologue de vous-même, c'est une manière de parler du travail de Freud qui compare donc celui de l'archéologue à celui du psychanalyste. Ce texte est parfait, Lydia Flemme, très clair, très pédagogique aussi, de comparer le travail que le psychanalyste ou que le patient fait à l'égard de son psychisme à celui de l'archéologue. Mais alors, dans les cas qui réussissent, qui sont exceptionnels, hein, dit Freud, c'est comme Pompéi ou le tombeau de Toutankhamon. Tout y est et on découvre tout extrêmement bien préservé. C'est un peu le fantasme peut-être d'une analyse réussie. Et là, ça nous fait considérer différemment la question du secret. C'est pas le roman policier où il faut élucider quelque chose, mais c'est arriver à prendre soin, déjà déterrer et prendre soin de ce qui nous compose sans qu'on le sache vraiment.
Oui, alors là, on est à la fin de sa vie. C'est un texte de 1937, Construction dans l'analyse. Et la métaphore archéologique et les objets archéologiques aussi, qu'il avait nombreux dans son bureau et même tout autour de lui sur sa table de travail, l'accompagnent. C'est pour lui comme l'image, la preuve presque culturelle qu'il a raison, qu'on peut ramener du passé des traces. Donc, bien sûr, l'archéologue ramène réellement des traces du passé. Et ça le fait rêver, Freud. Mmh. Et il aimerait tellement qu'il puisse faire la même chose avec ses patients. Et donc là, c'est un texte un petit peu, quand même, presque orgueilleux. Parce qu'il dit, au fond, l'analyste peut réussir là où, au fond, l'archéologue ne fait qu'un morceau du travail. Mais... on voit bien quand même que, en effet, le psychisme, il a compris que c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'il a cru 50 ans plus tôt. Mais malgré lui, il peut pas s'empêcher de rêver. Il a cette phrase dans une de ses lettres que par la brèche de la rétine, on pourrait voir l'inconscient. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que l'analyste doit écouter et non pas voir. Et il ne peut pas renoncer à ce désir de voir comme, en effet, l'archéologue sur son champ de fouilles trouve des objets ou parfois même, enfin, des villes entières qui se découvrent sous ses yeux, pas nécessairement des fragments, mais donc dans son bureau et dans le lieu, dans son cabinet, là où il reçoit ses patients, il y a des objets archéologiques. Absolument partout, sur le sol, dans des vitrines, sur les murs. Enfin, donc, il faut imaginer que le patient ou la patiente qui rentre dans son cabinet entre comme dans un musée, entre comme au Louvre. D'ailleurs, quand il était à Paris, il retournait sans arrêt au Louvre pour voir. Il était déjà fasciné. Et qui avait le premier bureau chargé d'objets archéologiques ? C'était Charcot. Et donc... quand il a 29 ans, 30 ans et qu'il est à Paris, qu'il voit cette maison magnifique où Charcot vivait, il découvre ce bureau chargé d'objets archéologiques et il se dit « un jour, moi aussi ». Mais c'est vraiment le rêve de personnifier le passé, que le passé devienne présent. Et au fond, c'est le rêve secret que l'on peut avoir chacun d'entre nous. C'est de...
Ou le pire cauchemar.
Ou le pire cauchemar. De comprendre ce que l'on a vraiment vécu, d'être à la fois maintenant et hier, pour savoir qu'est-ce qui nous est arrivé pour que nous souffrions de telle ou telle chose ou que nous soyons hantés par cette part de nous que nous ne connaissons pas et qui nous échappe. Et là, c'est le rêve que ça cesse d'échapper. Et il amenait à sa table, au repas familial, quand il avait un nouvel objet de collection archéologique, il déposait l'objet sur la table et... ils dînaient tous ensemble.
Comme la jouissance de celui qui peut enfin voir. Il y aurait une forme de frustration de sa part de ne pas pouvoir voir ce que la personne allongée devant lui est en train de dire, c'est ça ?
Oui.
De posséder, de voir, oui, quelque chose de vraiment de possessif, en fait.
Oui, et puis de rendre réel, enfin, d'incarner ses ombres.
Vous le rendez réel, en tout cas dans votre livre, Lydia Flem, La vie quotidienne de Freud et de ses patients. C'est un ouvrage vraiment passionnant. On trouve le... Alors, ça va du plan de sa maison que vous reproduisez avec chaque pièce et puis tout ce qui fait la vie quotidienne du professeur Freud dans son cabinet, dans sa maison, ses promenades, ce qu'il aime. On y découvre son goût pour les champignons. Vous dites que voilà, c'est un homme passionné qui aime cultiver ses passions. On y découvre énormément de choses et c'est un vrai plaisir de lecture. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. On se quitte avec une chanson des Comédiennes Harmonistes, Si vous m'aimez en secret.
Secret, tout au fond d'un cœur tendre et discret, il faudrait que ce temps de promesse vos yeux se baisse pour les cacher. Si vous aimez le secret, il faudrait tout au fond d'un coffret bien cacher ce regard qui proclame ce que votre âme a désiré. Et si par hasard il est trop tard pour vous reprendre, n'ayez pas peur, puisque mon cœur a su vous comprendre. Si vous m'aimez en secret, tout au fond de votre nid discret, si je viens un jour, Dieu me pardonne, jamais personne n'en saura rien. Gardons pour nous ce que l'on pense, le silence c'est plus doux. Notre joie sera
sur France
plus
Culture, les chemins de la philosophie, c'est plus doux, chantent les Comédiennes Harmonistes. C'est normal, Géraldine Mosna-Savoie vient de s'installer à la table pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, vous partez d'une question, non pas celle qu'on entend souvent, où sont les femmes, mais où sont les hommes?
Eh bien, c'est ce que je me suis demandé à la lecture d'un article.
Pas autour de cette table en tout cas.
Non, c'est vrai. Un article vraiment intéressant que j'ai lu ce week-end de Marion Rousset, paru dans Le Monde des idées, et qui se penche sur un nouvel objet de recherche, l'homme. L'homme, et non pas l'homme avec un grand H, avec sa condition humaine et sa nature humaine, non l'homme, c'est-à-dire les hommes, et pas non plus les femmes, sur lesquelles les études de genre se sont concentrées jusqu'ici.
La femme, elle a été créée pour être à la baraque, élever les mômes, et puis, s'occuper des enfants, surtout.
Ouais, et puis c'est gigolette. Oh, terrible.
Est-ce que vous pensez que les femmes ont une façon à elles de conduire?
La mauvaise.
Madame, vous travaillez à la RATP?
Oui, monsieur.
Et comment se fait-il que vous soyez en pantalon? C'est interdit pour les receveuses.
Mais je suis pas receveuse, monsieur, je suis machiniste.
Je pense qu'une femme qui a une vie professionnelle chargée n'a pas la possibilité, en dehors de sa vie professionnelle, d'apporter quelque chose à un homme.
Se pencher sur les hommes comme s'il s'agissait d'une grande avancée peut un peu déconcerter, mais comme on s'en rend compte, ce qui constitue l'objet de cet article, ce sont en fait les raisons de l'absence des hommes, non pas en général mais en particulier, c'est-à-dire dans les études de genre, jusqu'alors focalisées sur des enjeux féminins et féministes. Pourquoi a-t-on donc identifié l'homme en général et les hommes? Et s'est-on ainsi passé de les étudier dans leur genre, dans leur masculinité, biologie, histoire et mythologie? C'est la question soulevée ici et par plusieurs chercheurs aussi. Olivia Gazalet avec son mythe de la virilité, Mélanie Gourarier, auteure d'Alpha Male, Séduire les femmes, pour s'apprécier entre hommes, Nadine Le Faucheur et la fabrication des mâles, c'est un livre paru en 1975, ou encore il y a aussi Thierry Hoquet, Eric Fassin, Jocelyn Tricou, Sylvie Héral, à qui l'on doit la fabrique des garçons. Toutes et tous déclinent ici les raisons de cet oubli des hommes. Alors il y a l'universalité illusoire de l'homme, l'appréhension à l'égard des études anglo-saxonnes déjà sur le coup, la peur aussi de remettre en question les hommes. Oubli paradoxal, il faut le dire, car il faut ajouter à ces raisons un certain mal resté, lui, dominant.
On pourrait dire que ce qui est sexiste, c'est l'inconscient. L'inconscient socialement constitué par la socialisation peut survivre très longtemps à la transformation des structures sociales. C'est-à-dire que même dans des cas où la femme est en position dominante, elle peut avoir des difficultés à entrer dans cette position dominante parce que tout son corps, toute sa manière d'être, toute sa manière de s'habiller, etc., etc., est en quelque sorte en contradiction avec la place, la position qui lui est assignée dans la structure.
Avec son livre « La domination masculine », Pierre Bourdieu aurait longtemps empêché de telles études sur les hommes, le masculin et la virilité. C'est un des autres arguments invoqués ici pour expliquer cette identification de l'homme en général, aux hommes en particulier. Mais à côté de cette identification, il faudrait en pointer aussi une autre. Pourquoi a-t-on également identifié études de genre et études sur les femmes? Il ressort en effet un autre paradoxe, le prolongement au sein même de la recherche universitaire, censée être neutre, rationnelle, aveugle, d'une triple inégalité des sexes, inégalité politique, des rapports entre collègues, professeurs et élèves, bien sûr, inégalité, comme c'est évoqué dans cet article, de la place accordée au féminin et au masculin comme objet dans le savoir, mais aussi, j'ajoute, inégalité du rôle que l'on fait jouer à chaque sexe dans le savoir même et son modelage. Comment le savoir, ses acteurs et ses lieux pourraient-ils redistribuer les cartes des sexes et pas seulement les répartir et les rejouer de la même manière, avec d'un côté des hommes dominants qui ne s'interrogeraient jamais et des femmes dominées à qui il reviendrait seul d'en sortir.
Le dossier de cette édition, faut-il réaffirmer la masculinité? La question peut sembler artificielle. De fait, un demi-siècle après les années 60 et la fin du patriarcat, beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existentiel, au point que des stages sont désormais proposés. On appelle cela le mouvement viriliste.
Des hommes, exclusivement des hommes, réunis pendant 4 jours autour d'un thème, la masculinité. Ils sont plus de 300, fervents catholiques, tous traversés par une question existentielle. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? Qu'est-ce que la société attend d'eux?
En mars 2017, le JT de France 2 avait diffusé ce reportage qui avait fait beaucoup parler et pas en bien. Des hommes mal dans leur peau, à qui on empêche d'affirmer leur virilité. On peut comprendre pourquoi il y avait eu polémique, mais la question était là. Qu'est-ce qu'être un homme? Et le problème aussi, comment poser la question sans reproduire les inégalités déjà présentes? Peut-on la poser sans polémique? Le faut-il? De la même manière que dans le droit, la loi ne fait pas que prendre acte des mœurs, mais peut les influencer, on peut aussi voir comment le savoir n'a pas seulement à prendre acte des inégalités, mais à les transformer. Reste alors cette question, comment renoncer définitivement à la neutralité du savoir pour enfin questionner ses partis pris et même prendre parti à travers lui? Le faut-il vraiment? Ou faut-il alors tenter de dégager une neutralité du savoir?
Merci Géraldine pour ces questions passionnantes qui sont loin d'être résolues. Est-ce que vous avez des conseils de lecture à nous donner?
Alors il y a l'article donc de Marion Rousset qu'on peut trouver sur le site du Monde dans le Monde des Idées. Et puis il y a Olivia Gazalet, son mythe de la virilité, Mélanie Gourarier aussi, Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. C'est respectivement paru chez Lafond et Au Seuil.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Edith Jourda qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Maud Markiewicz, David Pargamin, Géraldine Bosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise les émissions cette semaine, Emmanuel Morse-Duncan qui était à la prise de son aujourd'hui, Yvan Moran à la lecture des textes. On se retrouve demain pour l'ultime volet de notre série sur la vie secrète des philosophes, ce sera celle de Camus. Demain qui vous sera dévoilée dans sa correspondance torride et sublime avec la comédienne Maria Cazares, ce sera Jacques Gamblin qui viendra lire les textes. En lieu et place de Camus, rendez-vous demain à 10h donc. Mais d'ici là, pour écouter cette émission ainsi que toutes celles de cette série, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez les réécouter en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.